Voilà, bonjour à tous. Merci de vous être levé un samedi matin pour essayer de réfléchir ensemble sur, à mon avis, un enjeu pour notre société, société occidentale, pour l'Église, car il semble que la crédibilité de la foi, vous voyez, de notre foi, se joue à la croissance des hommes. Vous voyez, il y a un lien entre la capacité pour les non-croyants de s'ouvrir à la foi. Dis-moi, oui, mais votre foi, est-ce qu'elle a un impact sur la vie réelle, sur ma vie, sur notre vie ensemble? Donc, l'avenir du monde, l'avenir de l'Église, passe par l'intelligence, on pourrait dire, simplifiée, démultipliée, fécondée de la croissance de l'homme à une époque où la technique semble se substituer à ce désir. Hein. Toujours plus de techniques, toujours plus d'hommes. Il semble qu'il y ait un petit combat, un grand combat sociétal entre une fascination des nouvelles technologies. Hein. C'est un livre que j'ai sorti la semaine dernière, et, il y a un mois, sur voilà, on est fasciné par les technologies parce qu'elles nous donnent toujours un plus de puissance. Eh bien, peut-être que le progrès de l'homme ne passe pas d'abord par un plus de puissance. La puissance, si elle reste un moyen au service d'un bien intégral, d'un bien de l'homme et d'un bien commun, on pourrait dire magnifique. Mais il semble aujourd'hui qu'elle prend la place d'une forme de finalité, de course-poursuite, à la fois psychologique mais aussi mercantile. Alors, l'avenir de l'Église, notre avenir passe par cette croissance de l'homme. Donc moi, je suis le père Tanguy Marie Pouliquen, donc professeur ordinaire d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. J'enseigne la bioéthique, l'éthique fondamentale et l'éthique sociale. Voilà. Je fais des conférences aussi un peu à droite à gauche en France. Et je fais des séminaires pour des chefs d'entreprise aussi. Voilà, et puis écrivain, j'écris une douzaine de livres, et la conférence que je vais vous faire aujourd'hui, vous pourrez la retrouver dans l'ouvrage dont vous avez la première image devant les yeux. Cette image nous fait penser souvent à l'homme de Vitruve, vous voyez, Léonard de Vinci, symbolisé de manière contemporaine par Manpower, hein, l'entreprise de ressources humaines. Non, c'est pas Léonard de Vinci qui a inventé l'homme de Vitruve. Vitruve, c'est un architecte de l'époque romaine, l'an zéro à peu près, un Milanais. Et son dessin de cet homme tellement ouvert à la géométrie parfaite a d'abord été repris dans l'histoire de l'Église par le dernier docteur de l'Église. Qui est le dernier docteur de l'Église? De l'Église catholique. Le dernier docteur de l'Église catholique, c'est une femme, hein, Hildegarde de Bingen. Voilà. Donc vous, ici, vous voyez, au Moyen-Âge, déjà, on se sert de cette vision de l'homme ouvert, de l'homme cosmique, de l'homme finalement ouvert à toutes ses potentialités. Et un homme ouvert à toutes ses potentialités. On a des potentialités absolument incroyables. Et on va essayer de les mettre en perspective dynamique à une époque où, en contrepoint de cette fascination technologique, il y a une sensibilité croissante à l'écologie humaine, à l'écologie environnementale, à l'écologie durable, qui intègre bien sûr aussi le devenir de l'homme. Donc on va essayer de baliser ce chemin de la croissance intégrale de l'homme. Il nous faut donc avancer sur ce chemin en se demandant d'abord, est-ce que l'homme est le centre du monde? Voilà. Voilà le dessin de l'homme de Vitruve. Est-ce que l'homme est le centre du monde ou est-ce que c'est Dieu qui est le centre du monde? Qu'est-ce qui est le centre du monde? Qu'est-ce qui est l'axe? Qu'est-ce qui est le lieu de cristallisation? Qu'est-ce qui va nous unifier en profondeur? Vous voyez, il y a une sorte de triade à retenir. L'homme doit s'unifier pour être en unité de relation afin de construire une commune unité, une communauté sociale. Donc il y a un enjeu, vous voyez, tripartite. L'homme unifié, alors qu'aujourd'hui l'homme est un petit peu, par médias interposés, il est un peu éclaté, hein. Vos petits-enfants, vos enfants, un peu moins vous, je pense, touchent à peu près 250 fois leur smartphone par jour. 250 fois, et puis c'est une moyenne, hein. Donc il y en a qui font 500 fois, ils touchent, ils regardent leur écran, ils font... Ça devient une sorte d'extension psychique de soi-même, et on a plein de tics avec les smartphones, mais ils prolongent une dispersion souvent intérieure, symbolisant des gens qui sont en difficulté d'unification, en tout cas d'intériorité, voilà, une surstimulation mentale. Il nous faut retrouver cette unité de l'homme complet, voilà. Et cette unité de l'homme complet, c'est corps, âme, esprit, relation. Voilà. Un corps qui a une profondeur, qui a une ouverture extérieure, avec une sensibilité, les cinq sens, qui ont leur correspondance à l'intérieur. On a cinq sens intérieurs, on est capable de se goûter soi-même, de se représenter, d'entendre cette petite voix intérieure qui plus profondément va nous parler intuitivement, certes, voilà. Après, on a une âme, c'est-à-dire des capacités, mais d'abord, la première partie de l'âme, c'est une zone instable, et les publicitaires jouent beaucoup sur cette zone instable, c'est-à-dire, on a des puissances instables en 24, l'imagination, essayer de ne rien imaginer, c'est peine perdue, essayer de n'avoir aucun sentiment, aucune affectivité, c'est peine perdue. Essayez de n'avoir aucun souvenir de votre histoire passée, et même de vous projeter dans l'avenir. Et puis, essayez de n'avoir aucun instinct. Voilà. On n'a pas une sexualité, on est sexué. Et on est sexué toute sa vie. Voilà. Et ça, c'est des zones qui bougent tout le temps en mouvement. Et on voit bien, la publicité va jouer sur les sens et sur ces puissances instables. Il faut descendre plus profondément dans des zones stables, l'intelligence, la volonté, la mémoire de l'être, c'est-à-dire la mémoire de notre dignité, et encore plus profondément, cette capacité, au niveau de cette stabilité qu'il y a en nous, de nous ouvrir à la grâce, à la présence de Dieu, à la proximité du divin, qui ne s'impose jamais, mais qui nous rencontre avec sa bienveillance providentielle, qui s'engage pour nous. Et tout cela, unifié, nous projette dans la vie relationnelle, dans la vie sociale. Voilà. Donc voilà quelques éléments de cet homme unifié, qui va être capable d'unité, et après de commune unité, de communauté. Mais tout part d'abord de l'homme. De l'homme en tant qu'il s'unifie et qu'il s'ouvre profondément à la grâce. Alors au commencement, tout allait bien. On va prendre une image, l'image d'un poisson, d'un aquarium, peut-être certains d'entre vous ont un aquarium, et cet aquarium, tout allait bien, il y a des petites herbes, il y a l'oxygéné, des coquillages, les poissons ne se mangent pas les uns les autres, il y a un équilibre, voilà. Tout allait très très bien même, voilà, des très beaux poissons, de couleurs différentes, avec des coraux, tout ça, voilà. Alors, il y avait tout pour respirer, enfin presque, on est quand même sous l'eau, mais bon, une eau oxygénée, une vie oxygénée, voilà. Tout cela pour se demander progressivement, mais quels sont les éléments constitutifs de notre vie intégrale, voilà. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent en respirant, avec une paille, avec la tête sous l'eau. Voilà. Mais de quoi on a besoin profondément pour être en paix, pour être unifié? Parce que, vous voyez, l'Église, elle défend le bien intégral de l'homme. Elle est la mémoire de l'humanité, c'est une magnifique prétention. Elle défend la dignité intrinsèque de l'homme et elle veut nous donner le meilleur. Et je pense qu'elle le donne. Alors, mais il y a eu un problème. Il y a eu un problème pour le poisson, mais en fait, il y a eu un problème pour l'homme. C'est qu'on a extrait l'homme, on a enlevé l'homme, l'humain, de son contexte vital. Bon, les récits de la Genèse montrent qu'il y a eu des ruptures. Voilà. Notre vie peut être marquée par des ruptures. Rupture entre le corps, l'âme, l'esprit, les relations, tout ça ne s'unifiant plus. On a été enlever de notre contexte de vie pour la distraction ici, un poisson rouge pour la distraction des enfants, souvent un poisson rouge c'est pour les enfants, ben nous ça peut être pour la distraction des publicitaires par exemple, voilà. Puis les publicitaires formatent un petit peu notre esprit pour susciter notre désir à un niveau corporel, matériel, essentiellement. Alors notre désir est beaucoup plus profond, car qu'est-ce qu'on veut vraiment? Moi je vais vous dire ce qu'on veut vraiment. On veut tous la même chose. On va me dire, oh, il est audacieux là le petit. Il a 20 ans de moins que moi, il me dit ce que je veux. Voilà, non, on veut tous la même chose. On veut quelque chose d'infini dans notre finitude d'aujourd'hui maintenant. En fait, on veut un amour infini dans notre vie aujourd'hui. C'est la seule chose qu'on veut, hein, mesdames, par rapport à votre mari, c'est ça. Hein. Et puis, messieurs, voilà. Alors, parfois, dans la vie, c'est plus ou moins satisfait immédiatement. Mais on va voir que ça peut être satisfait, pas seulement immédiatement, mais éternellement. Oui, on veut quelque chose d'infini dans notre finitude, dans notre singularité d'aujourd'hui. Voyez. Donc, on voit bien qu'il va falloir qu'il y ait une ouverture. Une ouverture et en même temps une intégration, une unification profonde de notre être. Alors le vrai problème, c'est qu'on a complètement, quand on enlève l'humain de toutes ses dimensions, on enlève l'humain de cette relation vivante, hein, corps, âme, esprit, relation, qu'on le coupe de la grâce. Et moi j'ai l'habitude de dire aux jeunes, mais c'est valable pour les moins jeunes aussi, hein, pas de prière le matin, pas de petit déjeuner. Ah ben oui. Si le matin on prie pas, si le matin on s'ouvre pas la grâce, si notre estomac est plus important qu'une dimension constitutive de notre être vivant, notre être chrétien, ben évidemment on va surfer à un niveau inférieur, une sorte d'infra-humanité vocationnelle. On sera moins dans notre axe d'humanisme intégral. On est fait pour la grâce. Voilà. Moi, je vis en communauté, je vis au monastère, c'est formidable. Hein. 3 heures, 4 heures de prière par jour, oh, ça fait du bien, j'assure que ça fait du bien. C'est pas cher, c'est gratuit. Et puis, c'est bon de prier ensemble avec d'autres. Alors, le problème, c'est qu'on peut mourir. Un poisson hors de l'eau, il meurt. Un humain hors de son axe vocationnel, il meurt. Nous pouvons mourir. Et on rencontre souvent des morts vivants. Alors qu'on pourrait être des hommes complets. Hein. On connaît la phrase de saint Irénée, la gloire de Dieu c'est l'homme vivant, la vie de l'homme c'est la vision de Dieu, la gloire de l'homme c'est de servir Dieu. Waouh, l'accès là. Voilà. Ce père grec est émigré à Lyon, hein, ce grand témoin de la foi, deuxième siècle, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. La gloire de l'homme, c'est d'être dans son axe, en face de Dieu et pour Dieu, dans la grâce, d'un point de vue dynamique. Alors, vous voyez, ça, mesdames, vous connaissez cette petite bête que vous avez devant les yeux, un dé à coudre. On va quand même pas boire toute notre vie dans un dé à coudre. Un dé à coudre, on n'est pas fait pour boire dans un dé à coudre. Mais parfois, les gens, ils vivent leur vie comme s'ils buvaient leur vie dans des petites capacités. Ben, on connaît cette phrase de Jésus qui apparaît à Catherine de Sienne, hein, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent. » Ben, si on se fait capacité de dé à coudre, ça sera difficile que le Seigneur se fasse torrent d'amour, torrent de vie. Seul Dieu est infini. Donc si nous, on veut de l'infini dans le fini, c'est pas l'homme par l'infini de sa puissance, même technologique, qui va pouvoir satisfaire cet infini. Ce serait une sorte d'illusion entretenue mercantilement. Le véritable infini fini, vous voyez, l'infini, c'est seulement Dieu. Seul Dieu donne Dieu. Ah, seul Dieu donne Dieu. Donc il va falloir que je me positionne par rapport à Dieu et moi, cette capacité. Et plus je vais ouvrir cette capacité, en fait c'est le Seigneur qui, avec moi, élargit mon être pour être capable de le recevoir, plus je vais pouvoir être torrent d'amour. En fait, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Hein? Vous l'avez vu, hein? Il y a un torrent, et il faut boire au torrent. Voilà, ça, c'est une photomontage. Hein? Mais vous voyez, cet homme qui est sous une source, sous un torrent, ben, il n'arrête pas de boire. Et on est fait pour ça. On est fait pour boire. Et après, pour vivre. Alors, je vais m'attarder sur ce petit schéma. Vous allez l'avoir tout à l'heure. On va vous le donner. Pour l'instant, vous essayez de le comprendre avec moi. C'est les étapes de la construction intégrale de la personne. Vous pourrez en discuter en petit groupe par la suite. Alors, 5 dimensions, en complément de ce que je vous ai évoqué, hein, corps, âme, esprit, relation, viennent structurer la croissance intégrale de l'homme, de l'humain. Donc ici, je schématise, je simplifie l'enseignement anthropologique du Concile Vatican II, tel qu'il est actualisé par les magistères successifs de nos papes. Alors, la conscience. Notre conscience, c'est une conscience ouverte. La conscience, c'est pas simplement la conscience psychologique, c'est important d'avoir une conscience psychologique, conscience de soi, conscience de son corps, très important, conscience de, voilà, perception qu'on est capable de dire je sens, je veux, je désire. Mais la conscience morale est cette petite voix qu'il y a en nous, qui est à l'écoute du sanctuaire qu'il y a en nous. En nous, il y a un sanctuaire. À 50 mètres derrière moi, il y a une très belle église. L'église, c'est un sanctuaire. Quelle est la valeur d'une église, d'un sanctuaire? C'est la présence de Dieu. Au moins quand on est catholique, on pense ça. L'église, c'est un sanctuaire qui vient protéger, une sorte d'écrin qui protège le centre, qui est la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, elle va être comme le moteur pour rassembler le peuple de Dieu. Et il va y avoir ce va-et-vient entre profondeur d'une présence qui se rend présent, au présent comme un présent, et le peuple de Dieu, la commune unité qui se fait en union à cette présence. Ouais, ça qui est magnifique. Mais ça, c'est, vous voyez, au cœur même de notre conscience, il y a une intériorité. Alors, aujourd'hui, on dit que la conscience, elle est un peu instrumentalisée, la raison est un peu instrumentalisée. Elle est instrumentalisée par les écrans. Par les écrans. En moyenne, un Français passe au moins 8 heures par jour devant un écran. Dans la moitié de sa vie, actuellement. La télé comprise. Voilà, 8 heures par jour. 250 fois un smartphone. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est des moyennes. Hein. Mais ça veut dire que les écrans, il faut se positionner par rapport aux écrans. Parce que, est-ce que c'est moi qui vais à l'écran ou est-ce que c'est l'écran qui vient à moi, et qui me formate, et qui me dit ce que je dois penser, et avec toutes ces images parfois bien désordonnées qu'il y a dans les écrans, vous voyez, les icônes remplacent l'icône, voyez, les icônes remplacent l'icône. En tout cas, il y a une vigilance croissante à avoir pour protéger cette intériorité qu'il y a en nous, voyez. Le grand philosophe Gustave Thibon disait, voyez, la chose la plus importante à prévenir les générations qui viennent, c'est le danger d'une technique qui vient se substituer à l'intériorité. Voyez. Puissance technique, fascination technologique et intériorité. La conscience est comme le lieu protecteur de cette intériorité. Pour autant qu'on la cultive, qu'on la fait grandir. Donc la conscience, vous voyez, un sanctuaire, une petite voix, c'est ce lieu secret de notre intériorité profonde, là où Dieu nous parle, pour autant qu'on l'écoute. John Henry Newman n'hésitait pas à dire, bon, si à la fin d'un repas ecclésiastique, le prêtre devait lever un toast, certes, il lèverait le toast à la santé du pape, mais d'abord, il lèverait le toast à la conscience. Oui, la conscience. Ce lieu de notre singularité la plus profonde, La conscience a un versant subjectif, c'est comment je perçois les choses, je les interprète, et elle a un versant objectif parce qu'elle est en contact avec la vérité de notre nature humaine et la vérité de la grâce, de la présence. Voilà. Donc c'est une conscience qui est appelée à s'intérioriser, à s'approfondir, et bien sûr le creuser, le levier de tout ça, c'est magnifiquement la prière. Alors cette conscience, vous voyez, elle s'ouvre en amont. Notre conscience nous permet de recevoir le don de la vie. Notre vie nous est donnée. Il y a 100 ans, on n'existait pas. Dans 100 ans, on n'existera pas sur cette terre. Voilà. Mais on était connu éternellement dans l'idée de Dieu. Hein, donc on est aimé même avant de venir sur la terre. C'est ça qui est beau. Comme nos parents nous ont désiré qu'on vienne, mais Dieu encore plus. Voilà. Notre vie est reçue. Nous recevons notre vie, nous la recevons de Dieu. Hein. Ce n'est pas les parents qui créent l'âme. Hein. Les parents donnent les causes-secondes pour la croissance des corps et l'accompagnement psychologique et social de ces corps. Mais l'âme, ce n'est qu'à Dieu. Ce n'est qu'à Dieu. C'est que Dieu qui le crée. Voilà. Notre vie nous est donnée par notre famille, voilà, par l'amour de nos parents. De certaines manières, nos parents nous collent toujours à la peau. On le voit quand ils sont âgés et qu'ils vieillissent. Moi, j'ai une maman qui a eu un AVC la semaine dernière. Ça me touche en tant que fils. Voilà. Parce que, voilà, on prend soin de ceux qui nous ont donné la vie. Voilà. Notre papa, notre maman, les frères et sœurs, à un degré peut-être un peu moindre. Vous voyez, la fratrie, les oncles, les tantes, les cousinades, les cousins, cousines, etc. La famille comme première cellule de construction solide d'une société. Et la famille, voilà. Un grand débat sociétal est ouvert sur l'interprétation. Qu'est-ce qu'une famille ? Voilà. La société, on oublie que la société, oui, castanée, existait avant que vous soyez arrivé au monde. Donc, les politiques publiques, les politiques, les acteurs de la société civile ont préparé le terrain aux universités chrétiennes de Castanet, Tolosa, à l'été. Voilà. Donc nous sommes débiteurs d'une histoire passée, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, voire religieuse aussi. Nous sommes débiteurs, nous sommes en dette. Oui, la France est un pays magnifique, avec une très belle histoire. Nous sommes en débiteurs de tout le travail de nos aînés, qui ont fait qu'on est né dans les hôpitaux, qu'on a pu aller à l'école, qu'on a un développement des infrastructures formidables en France, qu'on est un pays formidable, et en plus, il y a les Français dedans, et c'est formidable. Voilà, formidable. Notre vie nous est donnée, vous voyez la posture que ça nous conduit. D'abord, vous voyez, je reçois. Et pas d'abord, je prends. Je reçois. Parce que tout nous a été donné gratuitement. On n'y est pour rien, pratiquement. Pour rien. Après, on va participer. En plus, la création, l'environnement, voilà, on bénéficie d'un environnement. En France, en plus, on est vraiment... Moi, je pense que c'est vraiment un des pays les plus beaux du monde. Hein. Moi, je voyage souvent dans le monde. Quand je reviens en France, magnifique. La semaine dernière, j'ai fait un goum de 9 jours dans l'Écosse, Cosméjan, Cos Sauveterne, avec 15 jeunes en marchant 6-7 heures par jour, en dormant à la belle étoile. Il faisait un peu chaud, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Voilà, la France est magnifique. Donc nous sommes débiteurs et responsables de la protection de cet environnement qui nous a été donné, fondamentalement par un créateur, mais par aussi la nature, comment elle a voulu se développer aussi géologiquement. Donc notre vie nous est donnée. Posture, vous voyez, d'abord une posture d'accueil. Posture d'accueil, oui. On pourrait dire, vous voyez, si je vais résumer le geste, non, je le ferai à la fin. Voilà. D'abord on reçoit. On ouvre sa conscience. On reçoit la vie. On intègre la vie. Et on l'intègre dans notre singularité. On a une nature commune, On a une vocation spirituelle commune, on est fils de Dieu. Moi, je trouve que c'est pas mal, on est fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. On est roi, prophète, prêtre par notre baptême. Il n'y a pas que les prêtres qui sont comme ça. Tout le monde, tous les laïcs, tous les baptisés. Donc on a une dignité au regard de Dieu absolument incroyable. Cette dignité-là, il faut la vivre de manière singulière. Singulière. Et notre société contemporaine comprend ça. Elle développe beaucoup l'acceptation des différences. Il faut respecter les singularités, au risque parfois de perdre les liens sociaux et parfois le lien naturel. Mais la singularité. Singularité, c'est l'affirmation de « je ». Vous savez, un psychologue verra qu'une thérapie est terminée pour un patient lorsque le patient saura dire « je désire et je décide ». C'est-à-dire qu'il s'est réapproprié sa vie de manière singulière à partir de son désir le plus profond et il décide de lui-même, de sa vie. Voilà. Là, quelqu'un qui est un peu mature psychologiquement, voilà, il est capable de prendre des décisions, de reconnaître son désir et de s'affirmer dans sa singularité. Pas une affirmation dialectique, je m'affirme contre. Non, non, je m'affirme en face, avec, pour l'autre. Quelqu'un qui est capable de satisfaire ses besoins, on connaît les besoins selon la pyramide de Maslow, hein. Besoins physiologiques, primaires, hein. Besoin de sécurité, besoin de... d'appartenance, d'avoir une terre. Hein. Vous savez, aujourd'hui, la question des immigrants, c'est ça. Leur plus grande douleur, c'est que certains ne se sentent pas accueillis dans une terre. Ils ont quitté une terre où ils se sont sentis rejetés et ils pourraient ne pas se sentir accueillis dans une terre d'accueil. C'est une très grande douleur. Besoin de reconnaissance. On a besoin qu'on nous dise « Ah, oh, t'es quand même super mignonne. Hein. Ah oui. Ah, ta coupe de cheveux, là, t'as su quoi faire. » Ouais. On a besoin, et puis après, nos valeurs. Ouais, on a besoin de reconnaître qu'on a des qualités. Il faudrait qu'on soit capable de dire quelles sont nos 5 qualités principales. Vous connaissez vos 5 qualités principales, chacun? En une minute, hein, on pourrait faire ça en petit groupe tout à l'heure. Bon, vous faites ce que vous voulez en petit groupe. Mais vous voyez, être capable de dire ses qualités et de dire les qualités de l'autre. Cette bienveillance, vous voyez? Cette bienveillance diffuse, on l'entend aujourd'hui dans un certain débat politique, une envie de retourner à des débats de bienveillance. Voilà. Ben, tant mieux, si ça s'incarne, c'est bien. Voyez. Besoin de reconnaissance, besoin d'autonomie, besoin de créativité et besoin de plénitude. Voyez, à la fin de sa vie, Maslow a rajouté un 7e besoin, besoin de plénitude. Plénitude, l'infini, le fini dans l'infini. Autodétermination, vous savez, Jean-Paul II, quand il ouvre il écrit son si beau livre, mais un peu incompréhensible pour les non-philosophes, hein, Personne et acte, il dit, voyez, la personne se construit par son autodétermination, son autopossession et son appropriation de soi. Vous voyez, elle est un je, une personne singulière, elle s'est appropriée. Ses facultés, oui, je vous ai voilà, le corps, l'âme et l'esprit, la relation, ses facultés, ses potentialités, ses désirs, voilà, tout ça, elle l'a unifié autour d'un jeu, d'une singularité. Et c'est beau quand un jeune de 30 ans commence à bien finir cette première étape de la vie où il s'unifie. Voilà. Voilà. C'est souvent après 25 ans que. Voilà, 25-30 ans que les phases de maturation, les premières phases de maturation se cristallisent bien. Voilà. Voilà, appropriation, liberté, c'est-à-dire décider. Ça veut pas dire. Aujourd'hui, on a une mauvaise compréhension de la liberté. On comprend la liberté comme une indépendance. Je choisis ce que je veux. Non. La liberté, c'est de choisir ce qui est bon pour moi. Donc on a le choix entre un bien et un autre bien. Ben, ce bien, il va bien falloir le fonder avec des racines, un référentiel. Alors aujourd'hui, c'est un peu la psychologie, mais comme il y a plein de modèles psychologiques différents. Mais derrière, c'est l'anthropologie. C'est-à-dire quel est le bien, le vrai bien, voilà. Quelle est la vision de la personne. Moi, je vous propose une vision synthétisée de la personne. Alors, vous voyez, cette phase 2, je m'unifie dans qui je suis. J'intègre. Vous voyez, j'intègre. Je m'intègre. Intégration. En langage psychanalytique, on dit je perlabore. Je mets en tension, en relation d'intériorité, mon désir et la réalité à laquelle je suis confronté. Et parce qu'entre le désir et la réalité, il n'y a pas toujours une adéquation immédiate. Alors, troisième étape, se donner. Se donner, vous voyez, la personne se trouve elle-même en se donnant gratuitement. Cette très belle phrase du Concile, Vatican II, hein, en Gaudium et Spes 24.3, dit, voyez, l'homme est la seule créature que Dieu a voulu pour lui-même, l'homme se trouve lui-même dans le don désintéressé de lui-même. Les traductions sont diverses. Don désintéressé, don gratuit, don sincère. En latin, c'est sincerum donum. Un don sans cire, sans mélange. Vous voyez, sans mélange, sans duplicité, sans compromission, sans double langage. Quelque chose, vous voyez, se donner sincèrement. Sans exiger un retour. Je te donne, mais non pas je te donne pour... Hein, on connaît ça, hein. Je donne, mais pour séduire, pour ramener à moi, pour impacter une stratégie de retour. Non, le don gratuit, il est gratuit. Il y a une forme d'asymétrie dans le don de soi. Je donne, mais je n'impose pas un retour. Je n'impose pas un contre-don. S'il vient, le don, tant mieux. Mais je me trouve moi-même en me donnant gratuitement. C'est le cœur du cœur. Le don gratuit. Mais on arrive facilement à comprendre que ce don gratuit n'est possible que si je suis traversé par une gratuité. Et cette gratuité, elle vient d'où ? Elle vient de la grâce. Oui. Donc c'est seulement celui qui est en état de grâce, qui est en action de grâce, qui pourra agir dans la grâce, être en action de la grâce. Et là, on touche au cœur de l'anthropologie chrétienne. La nécessité de la grâce. La grâce, c'est pas en plus. C'est nécessaire. Oui. C'est saint Augustin qui a dogmatisé ça. Donc, voilà. La nécessité de la grâce. Si on veut être intégralement humain, c'est nécessaire de vivre dans et par la grâce. Comme le par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, de l'Eucharistie. Voilà. Qui nous donne cet œil charis, Eucharistie, la joie de la grâce. La joie de la présence. C'est pour ça que c'est tellement bien d'aller à la messe tous les jours. Parce qu'on reçoit la grâce par la chair. La grâce devient notre chair. C'est très beau. Devient notre vie. Alors oui, se donner soi-même gratuitement. Sinon, on tombe un peu dans le moralisme si on vit pas dans la grâce. On est volontarisme et au bout de 10 ans, on est épuisé. Et puis, il naît un peu d'amertume. Et puis, si c'est comme ça, on laisse la place aux autres. Hein. Voilà. Donc, donner gratuitement, voyez. Canal de Lubac dit la seule chose dans la vie qu'il faut exiger, c'est de ne rien exiger. Loin d'être une exigence de moi, c'est une exigence de plus pour moi. Vous voyez. On ne doit pas exiger de l'autre. La seule chose qu'on doit exiger, c'est soi-même de ne rien exiger, de ne rien imposer en retour pour créer un espace de gratuité. Créer des espaces de gratuité. Et quand on crée des espaces de gratuité, on se positionne soi-même dans sa dimension constitutive, plénière. Voilà. Pour autant qu'on accueille la grâce. Voilà. Alors c'est une chose de donner, mais on pourrait se dire, c'est déjà pas mal. Il faut donner, c'est pas mal. Hein. Non, il y a une quatrième étape. Pensez à tous les cadeaux qui vous ont déçu dans la vie. Alors moi, j'ai eu plein de cadeaux qui m'ont déçu. À Noël, quand j'étais petit, j'étais toujours déçu de mes cadeaux. Je voulais toujours plus. C'est quoi ça? Je me rappelle, je partais souvent l'après-midi, j'allais marcher dans les bois, à côté de la propriété de mon grand-père. Alors, il me dit, oh, j'ai que ça. Pas content. J'étais pas content. Voilà. Donc, on est souvent déçu des cadeaux qu'on nous fait. Mesdames, parfois vous avez été déçus des cadeaux de vos maris? Jamais. Oh, c'est beau ça. C'est jamais. Et messieurs, vous avez jamais été déçus des cadeaux de vos épouses?
Jamais.
Elles ont tellement compris votre besoin de l'instant. Donc parfois on est déçu. L'idée qu'il y a derrière, au-delà de la construction du couple, c'est de vérifier que ce que je donne est reçu par l'autre. Oui. Vérifier que ce que je donne est reçu par l'autre. C'est tout simple. Parce que souvent, on se projette tellement soi-même dans ce qu'on donne, mais l'autre, il n'en a rien à faire. Mais rien à faire. Et on se projette soi-même au lieu de s'ouvrir à la différence de l'autre. Vous voyez l'enjeu social aussi de ça. Il faut que ce que je donne construise l'unité, construise la relation, que ce soit dans un couple, entre amis ou dans une société civile. Voilà, construise l'unité. La première mission d'un homme politique, c'est l'unité. Voilà, c'est l'unité. Il faut que le pays... D'ailleurs, la première mission du pape aussi, il y a deux missions, le pape, c'est de fortifier la foi de ses frères et de garder l'Église dans l'unité. Voilà. Voilà. Et donc, c'est un enjeu permanent. Vous voyez, les parents, c'est ça, dans une famille. Et quand l'unité est fragilité, on sent que ça blesse. Ça blesse la famille. Donc, que le don vraiment soit reçu, s'adapte à l'autre. À l'autre, comme dit le pape François, là où il est. Et non pas là où je veux qu'il soit. Oh! J'aimerais tellement que mon mari soit comme ça. Alors, je vais te donner ça pour que tu sois comme ça. Ah, vous savez, les hommes, ils rentrent dans leur grotte, ils en sortent 2 ans après. Hein. Voilà, si c'est comme ça. Ils n'aiment pas la pression. Ils aiment la liberté, ils veulent qu'on leur fasse confiance. Ils ont besoin d'espace. Sinon, ils rentrent dans leur grotte, et puis ça passe pas bien, et madame n'est pas contente parce qu'elle comprend pas. Mais il vaut mieux comprendre tout de suite, parce qu'on fonctionne différemment. De toute façon, les hommes et les femmes. Donc, vous voyez, dans le destinataire du don, il y a déjà la différence sexuée. On n'est pas pareil, on fonctionne pas pareil. On n'a pas les mêmes attentes, fondamentalement. Mais le but, c'est la communion, la convivialité, la fraternité, vous voyez, cette vie familiale, des relations de qualité, être unifié pour créer de l'unité relationnelle. Alors maintenant, essayons de voir la maïzena, là. Qu'est-ce qui fait prendre la mayonnaise? Ah oui, parce qu'il faut que la mayonnaise, elle prenne. Alors, on est chrétien. On est à une université d'été chrétienne à Castanet. Clé d'interprétation chrétienne de ce schéma, d'une conscience qui s'ouvre, qui reçoit le don de la vie, qui intègre le don de la vie, qui redonne le don de la vie et qui rassemble dans le don de la vie. Le don de la vie, c'est le Christ. Le don de la vie, c'est le Christ. Il est le don de la vie fondamental. Car, comme nous le dit l'Écriture, hein, en Colossiens 1, 15, 19, c'est en lui que tout a été créé pour que tout trouve en lui son accomplissement. Voilà. Pour que tout trouve en lui son accomplissement. Le Christ, Alpha et Oméga. Partir de Dieu pour aller à Dieu. Pour voir Dieu, le Christ. Pour recevoir le Christ, l'Église. Et après, il y a l'homme. L'homme dans ce climat en aval et en amont. Alors, vous voyez, l'enjeu, c'est de retrouver son intégrité. Ça, c'est une maison qui existe. Voilà. Elle paraît un peu difforme. Bon, c'est des architectes un peu modernes qui font des façades difformes, mais à l'intérieur, c'est nickel. Voyez. Mais notre vie à l'extérieur peut être un petit peu difforme. On peut être super dans le 1, pas dans le 2. Un petit peu dans le 3 et le 4, on l'a complètement oublié. On a oublié qu'on a une conscience, etc. Voilà. Là, vous avez 5 variables, donc vous faites 2 à la puissance 5, et vous avez toutes les combinaisons possibles, et après vous mettez des degrés d'intensité Et ça fait déjà une bonne caractérologie pour quand vous êtes en face de quelqu'un, tiens, voilà. Et vous arrivez à dire, tiens, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est dans cette dynamique-là. Voilà. Et comment je pourrais l'aider en accentuant l'aider à recevoir, à rendre grâce pour tout ce qu'il a reçu, l'aider à s'affirmer dans la vie, à dire je, l'aider à sortir de lui-même en se donnant de manière désintéressée, gratuite, généreuse, puis à vérifier que c'est pas un bulldozer dans un jardin de... Voilà. Non, on va pas être... Un bulldozer, c'est bien, mais pour construire les autoroutes, hein, pas pour faire du jardinage. Donc, voilà. Alors, retrouvons notre intégrité. Cette intégrité, oui. D'ailleurs, le mot, vous voyez, intégrité, il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a un enjeu pastoral. Le pape François dit que le but d'Amoris Laetitia, c'est intégrer. Intégrer. Intégrer les personnes, c'est-à-dire donner une place. Mais pour intégrer les personnes, vous voyez, il faut aider les personnes à être elles-mêmes, intégrité. Pour les aider à être intègres, il faut les aider à vivre leur intégralité, l'intégralité de leur humanité, dans une dynamique d'intégration, voyez ? Intégrer, intégrité, intégralité, intégration. C'est un processus, voyez ? Donc, dans la joie de l'Évangile, sa première grande encyclique personnelle, parce que la précédente était elle avait été principalement écrite par Benoît XVI, même s'il l'a édité, La lumière de la foi. Il dit au numéro 169 et suivant, il dit, notre responsabilité de chrétien, c'est d'accompagner le processus de croissance des personnes. C'est nouveau dans le langage du magistère. Accompagner les processus de croissance des personnes. C'est un petit peu ce qu'on fait là, ce matin. Donner des clés d'interprétation pour comment accompagner ce processus de croissance des personnes. Pour que les gens retrouvent leur intégrité, l'intégralité de leur axe. Et après, on va les aider avec beaucoup plus de facilité à les intégrer, à leur donner une place dans la commune unité, dans la communauté des hommes. Et dans la communauté de l'Église. Donc, retrouver son intégrité dans le Christ. Dans le Christ, oui. Ça, le Christ, Logos, Créateur. C'est dans le Christ que nous avons été créés. Dans le Christ que nous avons été créés. Voilà. Le Christ s'est incarné. Il y a l'incarnation. Il nous permet d'être en jonction en lui avec Dieu. Il nous sauve et par son esprit, il nous sanctifie. Il n'y a que lui qui peut donner ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sous-entendu, avec moi, vous pouvez tout faire. Mais tout faire. Mais sans moi, voilà. Voilà. Donc il y a un combat spirituel. Voilà. Donc il nous faut entrer dans une dynamique de... Voilà. D'éducation, de formation et d'accompagnement. Donc le schéma que je vous montre sous les yeux, c'est un schéma repris des grands pédagogues de la vie religieuse, de la vie consacrée aujourd'hui, Amedeo Cencini, et qui dit, voyez, le but de notre vie d'abord, c'est de reconnaître notre incohérence. On a des incohérences de vie. C'est-à-dire, on veut faire ça, mais on fait ça. On pense ceci, mais on dit ça. Vous voyez. On peut avoir des doubles vies, des triples vies. Notre vie n'est pas convergente. Au niveau des comportements, des attitudes, des sentiments, des motivations, on peut avoir des incohérences. Comme le serait un prêtre qui commencerait à jouer à la séduction avec la responsable de sa dame de catéchiste. C'est l'histoire que raconte Cencini. Il dit, un jour, tous les mois, ce prêtre, il discutait avec la responsable du catéchisme, et à la fin, il se disait, bonne nuit, madame. Et elle disait, bonne nuit, mon père. Et il sentait que son imagination partait. Alors, au bout de quelques temps, il est allé voir son père spirituel. Il dit, mais j'ai l'impression que mon imagination, elle part en vrille chaque fois que je discute avec cette dame. Bon, alors le père spirituel dit, bah, essaye de voir devant Dieu ce qui va, ce qui ne va pas. Et, bon, et il décide, bon, prochaine fois qu'il y a ce rendez-vous téléphonique, de dire autre chose, quoi. Alors la discussion se passe et il dit, il dit bonsoir madame. Et une petite voix au bout du fil qui dit, mon père, vous me dites pas bonne nuit? Non, bonsoir madame. Et elle est pas contente, elle raccroche. Bon, je dirais, le prêtre avait mis le doigt pour lui-même et visiblement pour l'autre personne aussi sur une incohérence potentielle. Et ça, c'est comme les dominos. Hein. Ou comme on faisait fait du ski, hein. Quand la pente est raide, on a du mal à s'arrêter. Certains en font l'expérience devant leurs écrans. Alors, en face de ces incohérences, l'important, c'est le constat. C'est d'offrir cette incohérence à la croix de notre Seigneur. Vive la faiblesse, notre incohérence, au pied du véritable lieu de la puissance, qui est la puissance de réformation, de rédemption, de salut, qui nous redonne la forme. C'est le Christ qui nous donne notre forme. Et donc de déposer nos incohérences, voyez, au pied de la croix, profondément. Et de laisser la victoire définitive de la croix travailler. Oui, le combat est d'abord spirituel. Après, nous coopérons psychologiquement, socialement. Mais d'abord, spirituel. L'axe. Si on n'est pas dans son axe, ouais, si on construit une maison sans fondation, elle pourrait être très belle, la maison, mais on risque de la reconstruire souvent. Et après, on accompagne la résurrection personnelle dans des nouvelles motivations, des nouveaux sentiments, des nouvelles attitudes, un nouveau comportement. Ouais, il nous faut toujours être dans notre élément, vous l'avez compris, de grâce d'abord. Pas que de grâce, mais de grâce d'abord. Il nous faut en fait quitter l'aquarium. Il nous faut aller au large. Large, mais on peut aller au large que si d'abord on est rassuré en nous, profondément, par la présence de Dieu. Il nous faut ne pas avoir peur de vivre. On peut prendre des risques dans la vie. Mais si le Seigneur est avec nous, on ne craint rien. On peut croire que l'impossible est possible. Vous voyez ? Bon. Voilà. L'impossible est possible. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Libérons-nous des enfermements. Aujourd'hui, le grand danger des enfermements, c'est les écrans. C'est la technique. La technique, c'est un formidable moyen. Elle peut être le début d'un enfer. Progressif. Donne-moi ta grâce, Seigneur, elle me suffit. Oui, la position des mains, d'abord. Vérifions que nos mains, notre cœur, notre esprit est ouvert à accueillir de ce lieu de l'esprit la grâce du Seigneur. Mais avançons toujours plus ensemble. Voilà. Nous donner, oui, généreusement, mais pour créer des projets qui construisent l'unité. Qui forge l'unité, qui forge la communion. Voilà. Donc si vous voulez creuser ça, vous pourrez creuser ça dans ce petit ouvrage que j'ai écrit. Voilà. Recevons la vie au cœur d'une conscience ouverte, au cœur de notre esprit, de la profondeur de notre cœur, en présence de la présence au présent comme un présent. Accueillons la présence de Dieu. Vivons la joie d'être unique. Et de manière créative, donnons-nous, redonnons cette vie qui nous a été donnée, que nous faisons grandir pour créer la vie autour de nous. Je pense qu'avec cette dynamique-là, notre vivre ensemble pourra être de plus en plus, en Église et dans notre société civile, un vivre ensemble de qualité. Voilà.